très important et évidemment très délicat. Dans l'article que vous publiez en fait sur le site de la revue La Recherche sur cette question, article qui est publié ces jours-ci, vous faites référence au fait qu'il s'agit, que cela permettra de découpler le lien quasi exclusif, dites-vous, qui existe entre émissions de gaz à effet de serre et politique énergétique. Et vous avez, à plusieurs reprises, été très attentif à dire « Oui, mais il ne faut pas oublier que ces politiques énergétiques sont tout de même nécessaires. » J'entends aussi, dans ce que vous dites l'un et l'autre, la nécessité de lancer d'urgence des programmes de recherche sur les façons de réduire les émissions de méthane dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir, et plus que réfléchir, il va falloir trouver des manières de faire. De fait, ce que vous indiquez, je vous ai parlé tout à l'heure de transformation radicale, Benjamin Dessus, vous m'avez dit non, c'est pas si radical que ça. Néanmoins, dans cette transformation de la perspective générale sur les questions de changement climatique, on voit bien, et j'aimerais qu'on en vienne là maintenant, on voit bien les dangers qu'il y aurait à remplacer cette simplification que vous avez débusquée par d'autres simplismes qui, eux, seraient extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on pourrait demain dire, mais après tout, poursuivons l'ouverture de nouvelles centrales à charbon, c'est pas si grave, les vaches ou les rizières sont bien plus dangereuses que nos petites centrales à charbon, par exemple.
Non, mais on a bien dit, il faut prendre comme point de départ, en leur accordant la confiance, les scénarios des climatologues qui disent bien que pour arriver à limiter le réchauffement global à 2 degrés, ce qui est l'objectif actuel au niveau mondial, il faut faire, un, cette réduction du gaz carbonique que tout le monde met en avant et qu'il faut faire, et deux, la réduction des autres. Sinon, on aura la surprise de se dire on a fait des efforts sur le gaz carbonique dont on nous disait que ces efforts seraient suffisants pour arriver à ce résultat. Or, aux surprises, on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, des gens diront « Ah oui, mais on a oublié le méthane ». Bon, autant s'en apercevoir tout de suite. Mais il faut faire ce programme d'isolation des 400 000 logements. Mais en parallèle, pour que cet effort...
Non seulement en parallèle, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut d'abord lancer les programmes méthane.
Pas d'abord.
Non.
Pas d'abord. En parallèle, parce qu'il y en a un qui demande un gros effort d'infrastructure et surtout la continuité, parce qu'il ne faut pas faire 400 000 une année et puis zéro l'autre parce que je ne sais pas quoi. Donc, il faut installer un programme sur, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans d'isolation des logements à 400 000 logements par an. Tout est prêt pour le faire, c'est essentiellement une décision politique, mais en parallèle, et ça peut être très intéressant, y compris du point de vue économique, faire des programmes sur le méthane et sur l'oxyde nitreux, et en particulier dans les pays en développement, parce que souvent pour eux, ça peut être plus facile et moins cher. Et donc, ce n'est pas forcément de dire qu'il faut multiplier par 3 ou 4 le prix de la tonne de CO2 équivalent évité. Il faut dissocier les questions de fric, les questions de coûts, des questions d'effets réels. On peut faire des tas d'opérations méthane pas chères. Le problème, c'est qu'elles ont une grande valorisation climatique et que donc il faut les faire. Et moi, je ferais un programme mondial d'ordures ménagères indépendamment du fait qu'on fait des prêts ou qu'on fait des permis négociables, etc., au niveau des Nations Unies, des programmes de développement, PNUD, etc., on pourrait très bien lancer un grand programme sur les ordures ménagères, comme on lance un programme sur les lampes à basse consommation.
Qui serait techniquement assez facile à réaliser.
Oui, là, l'avantage, si vous voulez, c'est pas de mettre en opposition ces politiques, c'est de dire qu'elles sont toutes les données nécessaires, et souvent elles sont complémentaires dans le temps, ou elles sont complémentaires du point de vue du développement. Je vous prenais l'exemple du Mexique. Pourquoi tout à l'heure? Parce que le fait d'avoir pris en compte des problèmes sanitaires au Mexique, ce qui est vraiment du développement, a conduit à centraliser les ordures ménagères, à centraliser le traitement de l'eau, à traiter l'eau qu'on ne traitait pas avant, et par conséquent à se donner les outils pour récupérer le méthane. Vous n'allez pas récupérer facilement le méthane si vous avez des tas d'ordures qui font chacun 3 mètres cubes. Mais quand, à partir du moment où vous les avez centralisés, vous avez une capacité à utiliser. La même chose pour l'épuration de l'eau. Donc, Même chose pour l'épuration des lisiers, etc. Plus c'est concentré, plus c'est facile. Donc là, vous avez des politiques relativement faciles à mettre en œuvre parce que vous avez commencé à centraliser les choses, probablement bien meilleur marché que des politiques à plus long terme, bon, d'investissement qui supposent des infrastructures lourdes, et qui donneront pendant une grande partie du siècle des résultats intéressants et qui permettent d'attendre l'arrivée des investissements d'infrastructures, qu'il faut évidemment commencer maintenant si on veut qu'en 2040, on ait des infrastructures différentes de celles d'aujourd'hui.
Alors là, on a presque le sentiment d'être arrivé à de bonnes nouvelles, finalement. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que maintenant que cette erreur est débusquée, on va pouvoir agir beaucoup plus, de manière plus ample et plus efficace que ce que l'on escomptait, que ce que l'on voulait faire. Mais alors, petite question subsidiaire, quid du méthane qui a déjà été émis et qui est aujourd'hui?
Celui-là, il y est, et puis
il n'y a plus rien à faire.
Non, il n'y a plus rien à faire.
Oui, mais c'est vrai qu'il décroît. Donc,
il y a urgence à ne plus en émettre.
Donc il faut y aller assez vite, puisque si on se disait, ce que disait Benjamin au début, si on se disait les problèmes, c'est en 2300, on pouvait se dire, bon, on a le temps. Mais si on nous dit que c'est plus près et qu'on a là des sources dont on sait que l'effet à court terme, moyen terme, est très fort, le moyen terme allant jusqu'à à peu près 150 ans quand même, hein, c'est pas 20 ans seulement, on a intérêt à le faire le plus vite possible, sinon on aura un pic d'émissions, puisque les réductions de CO2, on a vu, c'est beaucoup d'informations, c'est difficile, et même si on les fait tout de suite, on va infléchir petit à petit. Donc il faut gagner le maximum sur le court terme. Et ces politiques de CH4, pour au moins 30%, sont relativement faciles à faire. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire 100%.
Hein. D'ailleurs, si les climatologues ont prévu une réduction des émissions de CH4 de 30%, c'est parce qu'on sait bien que dans l'agriculture, c'est très difficile. Et donc, c'est plutôt sur les autres, ordures, lisiers et système énergétique. Mais on pourrait aussi lancer un grand programme d'amélioration du système énergétique, de fuite des réseaux de gaz, de récupération du
programme
méthane
des mines,
etc.
Programme que vous appelez l'un et l'autre de vos voeux depuis déjà fort longtemps.
Oui.
Donc, est-ce qu'on peut espérer que ça pourrait accélérer? Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les nouvelles que vous apportez sont reçues avec bienveillance ou est-ce que vous sentez des résistances autour de vous?
Trop tôt pour avoir une idée sérieuse de cette question. C'est pas facile de convaincre les gens. D'abord parce qu'il peut y avoir une réticence à l'idée qu'on change des choses, simplement. Qu'on change un discours. Et qu'on peut imaginer aussi que les gens qui alertent comme ça le font parce qu'ils ont des présupposés politiques ou des intérêts particuliers derrière. Donc il faut bien ne pas mélanger l'aspect « voilà ce qu'on dit sur les coefficients, ce qu'on dit sur la réalité physique des choses » et des exemples qu'on peut en sortir qui peuvent être pris « ah bah oui, il aime pas les économies d'énergie » ou « il aime pas le photovoltaïque » ou « il aime pas le nucléaire » ou ça.
Qui est vraiment du second ordre. Ouais.
Et après ça, on regarde. Moi, je pense que la première chose à faire derrière ce genre d'alerte, c'est de dire, faisons un programme, d'études, des cibles, des enjeux. Qu'est-ce que ça peut être, les enjeux en Chine, en France, en Allemagne, etc. Quelle est notre marge de manœuvre sur cette question-là? Et comment l'attaquer? En combien de temps, avec un calendrier, etc. Et puis, on voit ce que ça donne.
Mais il faut
franchir. Et ça, si vous voulez, même cette étude n'est pas faite parce que c'était considéré comme négligeable.
Mais il faut franchir le premier obstacle, c'est que les gens que ça intéresse ou que ça devrait intéresser prennent le minimum de temps pour comprendre qu'après tout, ce papier n'est que l'exposé logique de ce que disent les climatologues. Qu'il n'y ait pas la réaction. C'est très compliqué. Il y a une équivalence actuelle qui a été définie universellement, donc il ne faut pas y toucher. Donc il faut un minimum d'attention sur le fait que ça veut dire ça et que ça, c'est les conséquences. Et cette étape-là, qui paraît simple, parce que c'est finalement un minimum de calcul scientifique simple. Je veux dire, c'est les règles de 3 et l'intégrale d'une exponentielle, ce qui est quand même pas assez le niveau de Mathélème. Et bien, cette étape-là, beaucoup de gens ne veulent pas la franchir. Et c'est très ennuyeux parce que c'est un phénomène, moi, que je trouve général, c'est que les gens ne lisent pas les papiers et qu'ils prennent pas la peine de refaire les calculs ou de voir comment les calculs ont été faits pour se dire, bon, c'est vrai ou c'est faux. Bon, alors si c'est vrai, ce qui est dit là, après on discute des conséquences en termes de politique. Mais il faut au moins passer cette étape en disant, c'est correct. Le calcul est correct, il y a effectivement ce problème. Maintenant, quelles sont ces conséquences au niveau des définitions, au niveau du GIEC, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à utiliser cette tonne d'équivalent CO2 si elle n'a pas de sens réel? Et deuxièmement, ben, maintenant, examinons, comme a dit Benjamin, les différentes politiques, faisons de la recherche sur ce qu'on peut faire sur ce domaine dont on pense qu'il est plus important que ce qu'on dit.
En tout cas, on va inviter les auditeurs à lire l'article que vous publiez et que vous co-signez, on a oublié de le dire, mais c'est important, avec Hervé Le Treut, qui est donc un climatologue, et qu'on peut trouver sur le site web de la revue La Recherche,
www.larecherche.fr.
C'est un papier.
Et qui sera publié aussi dans l'édition écrite de
la revue.
De la revue en mars.
C'est un article bref, lisible par tous.
Que les lecteurs n'hésitent pas à demander des explications si nécessaire, parce que c'est vrai que ça paraît un peu compliqué.
Et à partir de là, on va observer les conséquences politiques. Merci Benjamin Dessus, merci Bernard Lacombe. Vous avez une semaine pour télécharger cette émission sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire, les émissions des 2 mois précédents. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, prise de son, Jean-Michel Bernot, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.